1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de Aligre FM 93.1. À ma gauche, Charles Lemoine, superviseur musical et photographe. Salut Charles.
Bonjour Thomas.
Et moi-même, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le support physique que dans le dématérialisé. Dans cette émission, nous reviendrons d'abord sur les films qui nous ont touchés ce mois de février 2025. Il y aura du Lynch, du Soderbergh, du Mangold. Et puis, nous discuterons ensuite d'une nouveauté qui est disponible chez Rimini Éditions, l'étonnant Les Yeux de Feu. La pause musicale country nous emmènera du côté du Canada à la rencontre du groupe fondamental The Band. Puis, en troisième partie d'émission, nous prendrons le temps de revenir sur la rétrospective de l'aimé John Frankenheimer, qui dure jusqu'au 1er mars prochain. Nous parlerons en particulier de deux œuvres importantes de son body of work, qui sont Seconds, l'opération diabolique, un film de 66, et Black Sunday, un film de 77, qui sont tous les deux disponibles dans de magnifiques éditions chez Sidonis Calista. Popcorn et Banjo, la cinquième, c'est sur Aligre FM 93.1 et c'est parti.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, il s'est passé quelque chose de terrible et quelque chose de fabuleux, c'est évidemment la mort de David Lynch, on est un petit peu en retard, mais ce qui est fabuleux derrière tout ça, c'est que soudainement, tous les films de David Lynch repassent en salle dans plein de cinémas du quartier latin, que ce soit la Filmothèque, les Actions École, Action Christine, qui s'appellent maintenant d'ailleurs les Christine Studios.
Oui, ils changent de nom.
Ils changent de nom assez fréquemment. Ouais. en tout cas, tous les films de Lynch sont disponibles dans des remasterisations sublimes, généralement assurées par Criterion, parfois Carlotta, et c'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a la rétro aussi au Max Linder en ce moment.
Ça commence là ?
Je crois que ça a commencé, ouais.
Si, moi, j'ai deux, trois films encore à rattraper, du coup.
Alors, justement, moi, je l'annonce, voilà, à la radio, je n'avais jamais vu un seul David Lynch de ma vie. C'est un cinéaste qui m'échappait un petit peu. Je ne sais pas si c'était une posture pour juste simplement ne pas aller vers son cinéma. Mais bon, c'est quelque chose que je n'avais pas fait. Et puis là, force est de constater que je me suis dit, allez, c'est l'occasion, j'y vais. Et j'ai vu tous les David Lynch, à l'exception de son dernier, Inland Empire, dans l'ordre, en salle. Et un peu comme beaucoup de personnes, j'ai pris une énorme claque. Voilà, grand cinéaste de l'errance, le rêve. J'étais hyper surpris aussi par la brutalité et la violence de certaines scènes, notamment il y a une scène de sexe dans Blue Velvet qui est complètement sidérante. Voilà, on est emporté dans presque dans un soap opera, presque, tu sais, les séries brésiliennes, tout est mignon, tout est gentil, et puis tout d'un coup, ça bascule dans une scène, mais d'une violence, avec un Dennis Hopper emporté.
T'as regardé Twin Peaks ou pas, du coup?
Non, je l'ai pas encore vu, et j'ai pas vu le film non plus. Le seul, effectivement, que j'ai pas voulu voir, parce qu'on m'a dit, ne regarde pas le film tant que t'as pas vu la série.
Ouais, sinon c'est trop compliqué, mais dans Twin Peaks, il y a aussi ce côté, effectivement, de toute façon, il y a souvent, dans quelques-unes de ses œuvres, il y a un petit côté soap opéra, et dans Twin Peaks, ça se sent vraiment violemment, quoi.
Mais qui bascule avec des moments...
Non, mais de toute façon, c'est Lynch, donc en fait, il y a toujours un moment où, je sais pas, dans Twin Peaks, par exemple, il y a une femme qui littéralement tient une bûche dans ses mains comme un bébé, et des gens chelous, et des... Tu vois, donc oui.
Ouais, bah elle est...
Et Blue Velvet, il y a ce truc-là, en plus, avec cette patine un peu vintage, pas années 50, mais il y a ce côté... petite maison américaine, toute proprette, et en fait, on va aller voir dans la gadoue, voir ce qu'il y a, quoi.
Exactement. Et c'est quelque chose qui m'a complètement emporté. C'est pas du tout mon préféré d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, j'étais assez surpris. Je savais pas qu'il y avait ce rapport, y compris à la sexualité dans le cinéma de David Lynch.
Ça parle beaucoup de cul,
énormément. Et c'est hyper voyeuriste. C'est toujours une posture assez voyeuriste. Je sais pas si tu te souviens de Lost Highway. Il y a une scène, mais qui est complètement folle, qu'on va pas spoiler, mais. Ça te parle ou pas, ce que je te dis, où il y a cette femme qui est présentée face à toute une horde?
Bien sûr.
Bref, absolument à découvrir. Alors, c'est l'occasion d'aller découvrir son travail en salle, quand même, c'est assez étonnant ce qui se passe. D'ailleurs, les salles sont bondées de monde à 22h en semaine. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans des salles remplies de jeunes spectateurs, et autant dire que ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, je vais te laisser la parole. Simplement, de mon côté, trois coups de cœur sur Lynch que je vous engage à aller voir si vous pouvez en salle. Eraserhead, son premier film de 77, qui parle de la paternité avec beaucoup de noirceur, mais aussi d'humour, et je trouve quelque chose d'assez joli et optimiste aussi. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à penser ça, mais moi je trouve notamment son rapport aux étoiles qui est très... très joli et toujours libérateur.
Et ça, c'est une image qui est beaucoup dans les films de David Lynch, hein, les étoiles. Ouais. Tu retrouves dans Elephant Man, tu retrouves dans Eraserhead, tu retrouves même dans Une Histoire Vraie, je crois. Ouais. Il y a souvent des plans du cosmos, des étoiles, ça arrive souvent.
Et c'est toujours un lieu de là où il peut y avoir des trucs très anxiogènes. Mmh. Les étoiles, c'est toujours le lieu, je trouve, de la détente et de la libération.
Toujours, ouais. C'est toujours un moment un peu de souffle.
Exactement.
Mais Eraserhead, effectivement, moi je pense que c'est vraiment un vieux film étudiant. Ouais.
Je sais que toi t'aimes pas, mais ouais. Bah, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était sidérant et visuellement d'une richesse et sans limite. Et la narration me plaît beaucoup aussi. Ouais. Une Histoire Vraie, ce serait le deuxième que j'ai beaucoup aimé. Et Lost Highway. Bon, après, je les ai tous aimés, mais ce seraient les trois films que je conseille d'aller découvrir en salle parce que c'est quand même une expérience sensitive.
Pourquoi t'as aimé Une Histoire Vraie ? Ça m'intrigue.
Et écoute, bon, alors c'est le film le plus narratif de David Lynch, hein, c'est le plus simple narrativement, voilà, c'est... et moi ce qui m'a plu c'est le rapport humain, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui apprend que son frère a fait une crise cardiaque et qu'en fait il pourrait mourir soudainement et il n'a pas parlé à son frère depuis des années pour quelque chose d'ailleurs qu'on n'aborde pas vraiment dans le film, mais une espèce de brouille familiale stupide, et il décide alors qu'il peut à peine marcher de trouver un moyen de locomotion pour traverser plusieurs états américains et aller en fait, revoir son frère. Et donc, c'est sur une tondeuse électrique, parce qu'il ne peut pas conduire, parce qu'il a plus la
force.
Il n'est plus en forme, en fait. Voilà.
Puis donc, malade,
il est malade.
Ouais. Enfin, on apprend ça dès le début du film. Hein.
Il prend une... Il pimpe sa tondeuse à gazon et puis il part sur la route à 80 balais. Non, d'ailleurs, il est un peu plus jeune que ça et ça, c'est peut-être le seul... en fait, il n'est pas si vieux que ça, en fait, dans le film.
Mais toi, ce que t'as aimé, du coup, c'est...
Bah, j'ai aimé le rapport humain,
c'est
en fait.
C'est vraiment OK. Parce que c'est vraiment, moi, ce que j'aime pas, c'est justement ce côté... tout est très segmenté.
Ouais.
Et du coup, moi, ça m'enlève de l'émotion et j'ai l'impression que tout devient moins organique et plus procédural, tu vois, il y a un truc où c'est des blocs qu'on pose comme ça, avec des séquences.
Ah, c'est marrant, moi je trouve que ça s'enchaîne plus, contrairement aux autres films de Lynch.
Je trouve ça très... Il y a un côté un peu artificiel.
Ok.
Que ce soit le rapport qu'il a avec sa fille, et puis après l'histoire qu'il y a avec les enfants de sa fille, enfin, il y a des trucs qui sont hyper touchants, et je ne sais pas pourquoi ce côté où on pose des blocs me fait ressortir, en fait, du film, et même quand il parle un peu de la guerre, etc. Enfin,
ça, c'est un moment qui marche pas.
Ah bah c'est marrant, j'entends plein de gens dire que c'est vraiment la séquence alors que...
Non, ça marche pas, c'est pas le sujet du film.
Bah ouais, je suis d'accord. Mais du coup, je suis étonné que tu mettes ça en deuxième position.
Non, c'est pas une deuxième position, ils sont pas...
Ils sont égaux dans ce...
Non, il y a pas de numérotation, de ce que... C'est juste, s'il fallait choisir... En vrai, Lynch, honnêtement, moi je fais partie de ces gens soudainement où Lynch est rentré dans ma vie et c'est important, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais je trouve que ces trois-là sont vraiment... extraordinaire. Après, ils sont tous... Enfin, tout est fou. Même Dune, qui est méprisé par tout le monde, visuellement, c'est incroyable. J'ai pris une énorme claque. Enfin, la DA de ce film est totalement sidérante.
Faudrait que je le revoie, lui.
À revoir. À revoir, s'il vous plaît. Revoyez ce film. Mais non, voilà, Une Histoire Vraie, ouais, J'en parlais avec Aja, et qui me disait un truc intéressant, même si je suis pas toujours d'accord avec ce genre de posture, mais il me disait, c'est le grand film wendersien de David Lynch. tu vois un peu ce qu'il veut dire ou pas?
Ok, mais pourquoi
et
pas?
Et c'est vrai, il y a un côté, tout d'un coup, on est dans un rapport très humain. Bon, là, le côté Lynch, ça va être le côté peut-être, tout d'un coup, le mec part sur une tondeuse à gazon sur la route américaine, mais il y a un côté très dans la sensibilité des rapports humains.
Oui, bah, tu veux dire, ça t'a rappelé Paris, Texas?
Bah, forcément un petit peu, ouais, sans spoiler, mais forcément un petit peu. Enfin, voilà, mais toi, dis-moi un petit peu de ton côté. Je sais qu'il y a trois films dont tu voulais un peu parler.
Oui, je vais en parler un peu rapidement parce que normalement ils passent tous encore, hein, mais oui, je voulais parler de Présence et de A Complete Unknown. Donc très rapidement, Présence, c'est le dernier film de Soderbergh avant qu'il en sorte un autre là dans quelques mois déjà. Ouais. Le mec il pond des films
avec Fassbender.
Et Présence, c'est l'histoire d'une présence dans une maison qui va suivre une famille. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. Et en fait, l'histoire va se dérouler petit à petit. On va comprendre, bien sûr, tout ce qui va se passer. Mais je préfère pas trop spoiler parce que le film dure à peine une heure et demie, et ça fait du bien de voir des films qui durent moins de deux heures d'un coup.
Tu m'étonnes.
Donc c'est écrit par David Koepp, celui qui a écrit par exemple Jurassic Park. Donc il y a quelque chose d'hyper efficace dans la narration, avec des personnages qui sont en même temps assez caricaturaux, mais qui sont plutôt bons. Et surtout, on va avoir cette caméra où en fait Soderbergh va s'amuser. Il a pris juste une petite caméra, je crois qu'il a pris juste un appareil photo Sony.
Ok.
Bon, avec bien sûr un gros objet, certainement. Mais donc en wide, en fisheye un peu. Et en fait, on va vraiment être seulement vu par la vue de la... Enfin, c'est la caméra, c'est la présence... c'est le regard, le point de vue de la présence. Et en fait, on va se balader comme ça dans la maison, et seulement dans la maison. Et en fait, la présence va se balader. Donc, il y a un côté assez voyeuriste aussi, qui est là où il va aller dans la chambre de la fille, puis la chambre du fils, les parents. Et en fait, il va vraiment regarder un peu ce qui se passe partout. Et on va essayer de comprendre nous-mêmes ce qui se passe avec la famille, tout en étant dans ce corps d'un être, quoi. Et vraiment, moi, ça a été une petite claque. Vraiment, c'est le petit film d'une heure et demie qui marche hyper bien, qui est carré. Alors après, il y a des gens qui trouvent ça exceptionnel, parce que dès qu'il y a un Soderbergh qui sort, ils trouvent ça génial.
Mais j'ai entendu que c'était assez...
Il y a des gens qui trouvent ça complètement con.
Ouais.
C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, le fantôme, effectivement, là, on est autour d'une table, et au lieu que le fantôme puisse traverser la table, vu qu'il n'a pas de corps, il va faire le tour.
Ouais.
Et moi, je me dis, le fantôme, on sait pas s'il est humain ou quoi, mais bon, on se dit que forcément, moi, je le projette comme ça, donc je sais pas s'il se pense encore humain, il va faire le tour de la table et puis basta, tu vois. On peut y avoir plein de solutions.
Ouais, ça fonctionne quand même, quoi.
Moi, je trouve que ça fonctionne quoi qu'il arrive, mais moi, je suis dans cet entre-deux où je trouve ça vraiment... j'ai trouvé vraiment le film, mais juste un bon film carré, quoi. Et ça fait du bien de voir juste une histoire qui est bien écrite, qui est bien foutue, avec un mec, en plus, qui a une idée de mise en scène derrière.
Ouais, c'est ça. Mais Soderbergh, c'est un peu... Il me rappelle un petit peu...
mais il pond 20 000
Zemkis, films, quoi. Il a un côté aussi... Non, mais pas du tout dans son travail, mais dans son rapport au travail. C'est-à-dire qu'il a un côté toujours expérimental.
Ouais, il veut toujours toucher complètement. Et même dans ses films un peu plus mainstream, effectivement, il a toujours envie de s'amuser.
Ouais.
C'est un réel qui a vraiment envie de ça, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est vraiment, c'est le premier film que j'ai aimé ce mois-ci. Parce qu'après, il y a The Brutalist, ça j'en parle vite fait pour dire que c'était vraiment quand même une grosse daubasse. Voilà, comme ça c'est fait. Quand même 3h30 pour pondre ça, c'est quand même un scandale.
Je l'ai pas vu, moi. Ouais.
Mais non, je vais plutôt parler de Complete Unknown, de James Mangold, qui est un réalisateur que j'aime bien, qui est un des derniers grands faiseurs d'Hollywood. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire oui à des gros projets, mais qui va réussir à mettre sa patte. Et c'est lui qui a fait Logan, le dernier Wolverine. C'est lui qui a fait Walk the Line. Il a fait aussi Copland.
Son premier long, si je dis pas de bêtises.
Je sais plus si c'est son premier long, mais en tout cas, c'est un de ses premiers. Ouais. Et c'est avec Stallone dans le rôle d'un shérif un peu paumé.
Et il y a De Niro, ils sont tous dedans, c'est incroyable.
Il y a Harvey Keitel, c'est un super film. Et Complete Unknown, c'est donc l'histoire de Bob Dylan qui va passer de la folk à l'électrique. Donc c'est cette période entre les années 60, enfin vraiment entre 60 et 66. Et le film est d'une... Je trouve, moi, ça m'a mis une claque de... Ben, en fait, j'ai eu envie de partir à New York dans les années 60 et faire de la guitare folk, quoi. C'est vraiment... Ça m'a rappelé aussi Inside Llewyn Davis, des frères Cohen, qui est un autre film que j'ai beaucoup aimé, où on va retrouver justement toute la créativité de l'époque, et en même temps, il y a une reconstitution de New York qui est assez, assez géniale.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et vous êtes sur Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Donc, retour sur le film de Mangold, comparativement à Walk the Line, qu'il avait fait sur Johnny Cash.
Walk the Line, je dirais qu'il y a une histoire un peu plus... Je sais pas si je dirais romancée, mais en tout cas, on suit une histoire d'amour sur le temps, et on sent que c'est en fait, à travers le biopic, il y a quand même, on veut raconter une romance. Là, dans le film Complete Unknown, on sent que le fil rouge, c'est comment Dylan passe de l'acoustique à l'électrique, enfin de la folk à l'électrique.
Ouais.
En vrai, c'est plus un grand karaoké de 2h30
ouais, okay.
de Timothée Chalamet, mais qui joue, moi, que je suis pas forcément fan de lui, mais je trouve qu'il joue vraiment très bien. Et surtout, ce qui est super, c'est que chaque morceau s'inscrit quand même bien dans le récit et en même temps raconte quelque chose de la psyché ou de la pensée intime de Dylan. Alors même qu'il n'y a pas beaucoup, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de discussions, pas beaucoup de dialogues, et en fait, on ne sait pas trop où ça va. T'as l'impression de ne pas avoir vraiment une histoire vraiment ténue comme Walk the Line. Et pourtant, grâce aux morceaux, grâce au texte des morceaux et à comment Mangold filme ses acteurs et les corps de ses acteurs, on réussit à comprendre quelque chose de Dylan.
Ouais.
Tout en gardant justement cette aura très mystérieuse qu'il a toujours eue, tu vois, qui l'accompagne. Et quand on regarde par exemple I'm Not There, qui est un autre film qui est super, où là c'est 8 acteurs, enfin plusieurs acteurs qui vont jouer Bob Dylan dans différentes parties de sa vie. Mmh. Et avec, ça peut être Kate Blanchett qui va jouer Bob Dylan à un moment, et puis un autre acteur. Donc il y a toujours ce truc de flou chez Dylan. Et dans Complete Unknown, on retrouve ce truc-là. Je suis allé le voir avec ma copine, et ma copine, en sortant, elle a dit bah, c'était super, mais j'ai rien appris sur lui, quoi.
Ouais, 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 ok.
Et en même temps, je trouve que bah, du coup, t'as tout compris sur Dylan, quoi. Il y a un truc un peu comme ça, c'est exactement ça, finalement. Du coup, je vous le conseille aussi ardemment.
Super, bah écoute, merci beaucoup. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur un film qui est en ce moment disponible en Blu-ray DVD chez Rimini Éditions, qui s'appelle « Les yeux de feu ». Alors, « Les yeux de feu », c'est un premier long-métrage, et il se trouve que dans le Blu-ray, vous avez la possibilité de voir le director's cut, qui s'appelle « Crying Blue Sky », ou la version coupée « Les yeux de feu ». Alors, nous, on a vu le director's cut. Il faut savoir que le réalisateur, qui s'appelle Avery Crowns, c'est lui-même qui a décidé de couper son director's cut pour faire la version des yeux de feu. Donc voilà, c'est pas un film qui a été détruit par la censure, par la production, etc. Donc on peut tout à fait voir les deux versions. C'est un film qui raconte l'histoire suivante. Ça se passe en 1750. Voilà, il y a un pasteur qui est chassé de son village pour adultère et qui va fuir avec quelques fidèles dans une région un peu inexplorée d'Amérique du Nord. Hein. Il se barre dans la forêt avec ces gens qui le suivent. Et puis ce petit groupe, ils finissent par s'installer dans un endroit et en fait, ils sont totalement inconscients parce que dans cet endroit, il y a des dangers qui se cachent dans les bois environnants et qui vont commencer à les hanter. Avery Crowns, c'est un réalisateur qui est mort en 2023. À noter qu'il y a un entretien avec le réalisateur dans le Blu-ray. Et comme c'est un réalisateur rare que je ne connaissais pas et qui a l'air d'avoir peu hors promotion parlé de son travail, c'est très intéressant de pouvoir se plonger dans cet entretien. C'est un photographe au départ qui ensuite réalise 3 films. Ce film de 83, Les yeux de feu, puis ensuite il réalise un deuxième film de Invisible Kid en 88 et enfin Cries of Silence en 96. En tant que photographe, c'est un type intéressant parce que c'est un photographe qui va utiliser des techniques de collage, il va abîmer ses pellicules, il va coller dessus. Et toutes ces méthodes-là, on va les retrouver en fait, hein, dans Les yeux de feu. Ça va nous faire une espèce d'immersion comme si on était dans un rêve. Il y a des vrais segments qui font penser au rêve et qui font aussi, qui ont un rapport très artisanal aux effets spéciaux. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans son travail photographique. Alors, Les yeux de feu, c'est surtout aussi un film particulier parce qu'il s'inscrit dans un genre identifié et assez rare qui s'appelle le folk horror et dont tu veux nous dire quelques mots.
Oui, bah, très simplement, pour expliquer juste un peu ce que c'est le folk horror. Donc, c'est un sous-genre du cinéma d'horreur, du coup, et en fait, ça va se distinguer, en général, ça va se passer dans des décors, on va dire, un peu ruraux, isolés. Souvent, c'est le pouvoir de la nature qui va... Le pouvoir soit de la nature, soit de la religion, parfois des deux, avec des cultes païens. Mais on va retrouver cette ambiance-là de la nature est aussi magnifique que dangereuse. Et ça peut, on peut retrouver ça donc dans des corps de ferme isolés, sur des îles avec des gens un peu bizarres, on va dire, qui ont des cultes un peu tendus, on va dire. Et donc ça, on va retrouver par exemple dans les exemples très très connus qu'on a eus ces dernières années, il y a Midsommar par exemple, de Ari Aster, où là c'est l'histoire d'une jeune fille qui va justement faire la fête du Midsommar dans un... Je sais plus si c'est en Suède, enfin dans un pays du Nord, et où là on va rencontrer un petit village qui est tout mignon, tout sympa, et en fait on va se rendre compte que la population sacrifie à tout va, quoi. Donc il y a toujours ce truc là, pareil dans The Wicker Man où c'est pareil, c'est un policier anglais qui va aller sur une île et qui va se rendre compte que ses petits propriétaires, enfin ses gens.
Oui, il part enquêter sur la mort d'un enfant.
Sur la mort d'un enfant, mais donc il va dans une île, et sur une île. Ouais. Et on va se rendre compte que les gens sont complètement barjots. Et donc il y a toujours ce truc-là, c'est vraiment la foi puritaine face à la foi païenne. Mm. C'est la force de la nature, les démons de la nature qui vont prendre le pas sur la rationalité.
Ouais.
Et donc on peut retrouver ça dans ces grands films que sont The Wicker Man, Midsommar ou même The Witch de Eggers, merci, qui a fait récemment Nosferatu, hein, son premier film The Witch, c'est un peu le même pitch d'ailleurs que Les yeux de feu, hein, c'est pareil, c'est des gens les premiers colons dans les années 1700 aux États-Unis qui vont se faire virer d'un village parce qu'ils sont trop croyants. Ils vont se retrouver dans la forêt à côté un endroit pour se poser, et finalement il y a une sorcière qui va un peu les asticoter, quoi.
Ah ouais, c'est assez
donc c'est proche. À peu près le même délire. Donc il y a toujours ces rapprochements, en tout cas vraiment d'un choc presque de civilisation, de la rationalité et du catholicisme, en tout cas, ou du protestantisme,
ouais.
Face aussi à la grande nature, quoi. Mais toi, Thomas, du coup, est-ce que tu as aimé ce petit voyage en forêt, là, toi ?
Ouais, vraiment, Les Yeux de Feu, enfin, donc, Crying Blue Sky, pour notre cas, parce qu'on a vu le directeur Scott, je le répète, c'était... Alors d'abord, extrêmement, enfin très bien filmé, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, c'est pas un film qui fait très peur, on va pas se mentir.
C'est
pas fait pour. Il y a une ou deux scènes d'atmosphère avec des arbres, avec des têtes humaines sculptées dans les arbres qui, moi, m'ont un peu fait frissonner quand même, où je me suis dit, ok, bon, en termes d'atmosphère, c'est un peu glauque. Mais c'est vraiment un film, d'atmosphère, d'environnement, quoi.
Je trouve que tous les films que j'ai même pu citer avant, en fait, c'est ça que j'aime avec la folk horror, c'est qu'il y a un côté plus, presque, alors je sais pas si c'est plus tranquille, mais c'est plus atmosphérique, c'est une autre ambiance, mais qui est, comme ça, tout se passe en forêt ou dans un peu paumé, il y a un côté un peu plus... t'es rempli de sérénité, quand même, toute cette merde qui va arriver sur les protagonistes, tu vois, t'es là, tu fais, bon, on est bien, finalement, et puis après, il y a une petite gif qui va arriver, tu fais, oh, ah non, ok, d'accord, il y a des démons, il y a des machins... Et je trouve qu'il y a vraiment ce truc-là aussi dans Les Yeux de Feu.
Et il y a un moment où ça bascule, rappelle-toi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où justement, les effets visuels prennent tout d'un coup presque le pas sur la narration. Et là, on traverse un film qui devient quasiment un film expérimental, assez hardcore, hein, avec tout d'un coup, la pellicule devient rouge, il y a des collages, Mais en fait, c'est jamais... ridicule, c'est assez étonnant. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé toute la partie expérimentale du film. Je me suis laissé porter. Ça devient presque une. Il y a un côté presque exposition, art contemporain par moment.
Franchement, je vois ce que tu veux dire. Et puis surtout maintenant que moi, je savais pas qu'il était photographe et tout le travail sur le collage qu'il a fait. Mais effectivement, il y a des trucs très chelous dans le film. Et puis même, faut bien avouer, là, on vous parle du scénario comme si on avait compris ça entièrement, mais c'est faux. Hein. Enfin, moi, il y a des moments où j'étais là, je ne comprenais pas ce qui se passait à l'écran. Quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Parce que le film, en fait, je pense, à un moment, lâche justement sa narration pour rentrer vraiment dans justement le bizarre et dans vraiment le... Pas le massacre, mais vraiment le...
Bah, le sensitif, presque, un peu.
Ouais, exactement, le sensitif. Et donc, effectivement, on va triturer la pellicule, on va changer, on va mettre ça en négatif, on va remettre ça en rouge, on va mettre ça en machin. Puis il va y avoir des fantômes, il va y avoir des démons, il va y avoir des... On va colorier juste les yeux pour qu'ils soient jaunes. Enfin, et donc, ça part tellement dans tous les sens qu'à un moment, tu ne sais plus dans quoi tu vas, quoi. Tu ne sais plus exactement ce que tu regardes. Mais c'est étonnamment, tu as quand même envie de rester dans le délire.
C'est ça qui est très bizarre, c'est que malgré cette déconstruction, en fin de compte, le film fonctionne, quoi. On passe un très, très bon moment, et le film fonctionne, et on accepte d'être baladé dans quelque chose qui, parfois, est un peu ni queue ni tête, quoi. Mais bon, et le tout avec un vrai regard, un vrai point de vue... un sens du découpage, c'est plutôt très joli, quoi.
Bah oui, complètement. Mais c'est maintenant, en fait, maintenant que tu m'as dit qu'il est photographe, j'ai vraiment envie de revoir le film justement pour revoir certaines choses, parce que il y a des surtout au début du film, parce que là il y a un moment, au bout de 45 minutes, une heure, il est en roue libre et il fait un peu n'importe quoi. Mais pendant 45 minutes, il y a vraiment parfois même des tableaux vraiment très très beaux, parce que donc du coup c'est cette famille de protestants puritains qui pensent pouvoir dominer la nature, et du coup il y a vraiment j'ai un souvenir de plans vraiment comme des tableaux, quoi, vraiment.
Ouais, très léché, quoi.
Très léché, plan large, belle lumière, avant que ça passe en caméra épaule avec de la bidouille. Et du coup,
Faut que tu regardes ces photos aussi.
Bah ouais,
parce qu'elles sont étonnantes et elles font un vrai lien avec ces films. C'est avec ce film, en tout cas. C'est assez improbable.
Mais en tout. Je serais assez intrigué de voir ça, mais vraiment, je trouve qu'il y a effectivement, il y a une puissance esthétique dans le film qui dépasse, en tout cas, la narration, pour moi, c'est sûr.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Tu vas maintenant nous parler de The Band, sublime groupe canadien. À toi la parole, Charles.
Ouais, oui, on a partagé des moments aux US avec, enfin pas avec ce groupe, mais en tout cas on l'a beaucoup écouté. Mais dans cette chronique, on va prendre un chemin un peu particulier puisque nous allons revenir, si vous le voulez bien, 20 ans en arrière. Alors, j'ai 11 ans et à cette heure-ci, je suis très certainement collé devant la télé, suivant de près les aventures soit des Looney Tunes ou de Batman. Et parallèlement, je me prenais pour un grand mélomane en écoutant en boucle Sum 41 que j'appelais à l'époque Sum 41. J'écoutais les Red Hot, Marilyn Manson. Mais c'est aussi à cette période que mon intérêt pour le cinéma commence et ne s'arrêtera plus jamais. J'étais déjà accro aux écrans et je dévorais à peu près autant d'images mouvantes que de Frosties ramollies dans mon bol de lait. Tout y passait, des cassettes des films d'Hitchcock regardés avec ma mère, à Double Team avec Jean-Claude Van Damme et Dennis Rodman. Et c'est alors que, à l'aube de l'adolescence, un film a marqué un tournant dans ma vie, Easy Rider. Un road trip avec des grosses motos, de la drogue, mais surtout une BO qui, moi, m'a fait découvrir le rock des années 60. On y entend notamment l'emblématique Born to be Wild de Steppenwolf. Alors bien sûr, quand t'as 11 ans, ça te marque un peu et ça fait un peu pousser le duvet, quoi, mais c'est un autre titre plus discret qui me marqua profondément et il commence par quelques accords sur une guitare acoustique.
Cannonball now to take me down the line.
Écoutez Aligre FM 93.1.
Vous venez d'écouter The Wait du groupe The Band, que vous pouvez retrouver notamment sur la BO d'Easy Rider. Ce groupe canadien, principalement actif entre 1967 et 1976, avec quelques apparitions plus sporadiques par la suite, voit ses débuts en 1965. C'est à cette époque, en fait, que John Hammond, un immense producteur, présente le groupe, alors connu sous le nom de The Hawks, donc les faucons, les aigles, à Bob Dylan pour sa célèbre tournée électrique. Hein, donc c'est la période où Bob Dylan passe de la folk à l'électrique, et c'est justement cette période que vous pouvez découvrir dans Complete Unknown, de James Mangold, sorti récemment. Et après avoir opéré un changement de nom et quelques ajustements dans la formation, le premier album, Music from Bing Ping, sort en 68, et propose une fusion des genres mêlant country, classique et soul. Et en fait, ça va devenir vraiment une pierre de touche de l'americana et du country rock. Et l'americana, pour ceux qui ne sauraient peut-être pas, c'est un style musical qui puise en fait dans toutes les racines de la musique traditionnelle américaine. Donc ça va être de la folk, de la country, du rhythm and blues, du rock and roll, du bluegrass, du gospel. En fait, on va tout mettre dedans, comme ça, et ça va devenir l'americana. Et The Band se distingue non seulement par ses innovations sonores, mais aussi par sa capacité à raconter des histoires à travers des textes empreints de poésie et de réalisme, et je trouve personnellement que leur musique est à la fois très brute, mais en même temps très élégante. Et enfin, cet héritage est immortalisé par Martin Scorsese dans le film The Last Waltz, un film documentaire qui montre le dernier concert en 76 du groupe, avec des guests comme Neil Young, Muddy Waters, Bob Dylan, Ringo Starr, et je vous conseille vivement de voir ce documentaire pour comprendre le groupe. Mais retour à la réalité, retour en 2025, et j'apprends la triste nouvelle que Garth Hudson, dernier membre encore vivant du groupe, n'est plus. Il s'est éteint le 21 janvier 2025 à l'âge de 87 ans. Et je ne peux m'empêcher de me revoir gamin frappé par la force de sa musique. Je perçois dans sa disparition la fin d'une époque, celle certainement de mon enfance, et je remercie sincèrement tous les membres du groupe pour l'apport inestimable de leur art dans ma vie. Grâce à Garth Hudson et à The Band, j'ai eu l'impression d'être entré dans la cour des grands. Ce groupe, même s'il n'est évidemment pas le seul, a éveillé ma curiosité et m'a doucement conduit à explorer d'autres horizons, bien au-delà du cinéma et de la musique, en m'ouvrant à la peinture, à l'histoire, à la compréhension des autres, à une multitude d'autres univers. Et de me dire aussi que ça serait peut-être pas mal d'apprendre la guitare, mais... J'ai préféré vous faire découvrir leur musique à travers mon ressenti plutôt que de me concentrer sur l'aspect historique du groupe, et j'espère vous avoir donné envie d'en apprendre, écouter ou voir davantage en vous lisant ces quelques mots. Mais pour finir sur une note probablement plus trivial, je vous propose de découvrir ou redécouvrir un autre morceau marquant, The Night They Drove Old Dixie Down, extrait de l'album live de Bob Dylan and the Band, qui s'appelle Before the Flood, et ce titre, comme tant d'autres, prouve à mes yeux tout le talent de ce groupe.
The night they drove.
Et vous êtes sur Popcorn et Banjo, la seule émission qui parle de cinéma et qui diffuse exclusivement de la musique country. Et on va tout de suite s'intéresser à un cinéaste important pour nous et dans le 7e art plus généralement, John Frankenheimer, évidemment, grand, grand cinéaste de l'entre-deux, pour citer Jean-Baptiste Torret, puisqu'il se positionne après la fin du classicisme des années 50 hein, et juste avant le nouvel Hollywood de la fin des années 60. Il y a une rétrospective en ce moment à la Cinémathèque qui termine le 1er mars, donc c'est l'occasion de découvrir ce cinéaste. Il y a encore quelques films qui passent, notamment Seconds, hein, qui passe samedi à 17h15, et dont on va parler ensuite, parce qu'il y a aussi, en parallèle, deux grands films de Frankenheimer qui ressortent en DVD et Blu-ray chez Sidonis Calista. Seconds, l'opération diabolique, 1966, et Black Sunday, 1977. Donc John Frankenheimer, c'est un grand cinéaste hein, des années 60. Ses thèmes de prédilection, la liberté et l'aliénation. Grand styliste de la courte focale avec une grande profondeur de champ, c'est un très grand cinéaste de l'expérimentation. Il vient de la télévision, il a fait ses armes à la télévision comme même génération que, un tout petit peu plus jeune, mais même génération que Arthur Penn, Robert Mulligan, Sidney Lumet, dont il deviendra l'assistant, hein, il sera vraiment chapeauté par Sidney Lumet à la télévision. Il va réaliser environ 150 dramatiques télé. Les dramatiques télé, c'est ce genre télévisuel où on filme en direct des, alors parfois des pièces de théâtre ou des petits scénarios de 30 minutes, 60 minutes. On filme tout en direct, hein, donc le découpage se fait en direct, ça va durer à peu près 5-6 ans. Frankenheimer va faire ses armes hein, véritablement, puisqu'il en aura donc fait environ 150 avant d'attaquer son premier long métrage de cinéma. Alors lui, Frankenheimer, contrairement à Arthur Penn ou Mulligan ou Lumet, qui sont des gens qui sont très importants aussi dans le nouvel Hollywood, lui, il va un petit peu rater cette coche. Hein. Notamment, je pense qu'il y a beaucoup de raisons à ça, mais une des raisons premières, c'est qu'il était très ami avec Robert Kennedy. C'était vraiment l'ami proche de Robert Kennedy, et à tel point que il l'emmènera le jour de l'assassinat de Robert Kennedy. C'est Frankenheimer qui l'emmènera sur le lieu de son assassinat hein, et qui l'attendra dans sa voiture pour le ramener chez lui ensuite. Quand il apprendra la mort d'un de ses plus proches amis. Et donc, il va tomber dans une grande dépression. Il va sombrer dans une dépression, dans l'alcoolisme. Et puis, il va s'expatrier en France pendant plusieurs années, faire quelques films là-bas. Et puis, faire des sauts de puce aux États-Unis. Et il reviendra vraiment fort dans les années 90 avec plusieurs téléfilms comme Attica ou Andersonville. Il remportera 4 Emmy. Et puis... la boucle sera un peu bouclée, la télévision qu'il aura lancée lui permettra aussi de finir sa carrière d'une belle manière. On va s'attarder sur deux films importants. Seconds, un film de 1966 et dont Charles va nous faire la présentation tout de suite.
Alors Seconds, c'est un film du coup qui va nous parler d'un homme d'âge mûr en fait qui, je sais pas, d'une 40. On va dire 45 ans, qui s'ennuie un peu dans sa vie, qui a un peu une vie monotone de banquier ou de cours de prêt. Un homme qui s'ennuie profondément. Et en tout cas, un jour, il va recevoir le coup de fil d'un ami qu'il croyait mort et qui va en fait lui proposer de refaire sa vie, tout simplement en simulant sa mort et en changeant d'identité et de visage. Mais bien sûr, tout ceci a un prix. Je dirais ça comme ça. Thomas, toi, qu'est-ce que t'as pensé du coup de ce film qui, moi, me fait beaucoup penser quand même on disait à une époque ce film ressemble beaucoup à un épisode de Black Mirror en plus long.
Ouais.
Je dirais que là, ça ressemble quand même. Seconds ressemble à un épisode de Twilight Zone en plus long.
La quatrième dimension, absolument, créée par Sterling, qui d'ailleurs sera scénariste de John Frankenheimer pour 7 jours en mai, qui est un film de 1964, et aussi pour un dramatique télé de Frankenheimer. C'est pas étonnant que tu dises ça, ce sont des personnalités du monde du 7e art qui ont travaillé ensemble. Écoute, moi, alors, il y a une chose que tu précises pas et que je trouve moins importante dans le film, c'est que cet ami de longue date le rappelle, mais lui donne pas vraiment de détails de ce qui va se passer. Il lui dit juste « va à tel endroit et présente-toi sous tel nom, le nom Wilson ». Il lui dit « écoute, oui, je ne suis pas mort ». Ben non, mais c'est-à-dire que tout d'un coup, on est embarqué dans un univers et on découvre en même temps que le personnage principal.
Oui, c'est pendant 45 minutes, t'es paumé dans le mystère. Ouais.
Voilà, tu ne comprends pas quelle est cette entreprise qui te propose de changer de vie, et petit à petit, en même temps que le personnage principal à qui on propose une rhinoplastie, etc., soit dit en passant, qui a été filmé en direct, hein, c'est vraiment des plans presque de reportage d'une réelle rhinoplastie, donc quand l'acteur principal change de visage, on voit déjà en 1968 le rapport au reportage documentaire, le rapport au réel, qui est toujours mêlé au cinéma de Frankenheimer. Il y a toujours tout d'un coup cette injection du réel. Par exemple, dans le film que tu m'avais montré, son deuxième long métrage que tu aimes beaucoup,
The Young Savages.
Merci. Il y a ce moment au début du film où les jeunes qui viennent de commettre un assassinat s'enfuient. Mmh. Et puis on a un plan large sur un chantier et il y a un ouvrier qui regarde droit dans la caméra. Et ça, c'est quelque chose comme s'il comprenait pas ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qui infuse dans le cinéma de Frankenheimer aussi, ce rapport au reportage réel qui tout d'un coup se mêle à la fiction. Et ben, c'est un peu pareil dans Seconds, puisque tout d'un coup on est dans une opération de rhinoplastie filmée live, j'ai envie de dire, quoi.
C'est vraiment, en fait, il écrit ça comme une nouvelle fantastique, hein. On part du réel, du concret, et en fait on va basculer petit à petit vers soit l'horreur, soit le bizarre, soit le merveilleux, soit le fantastique. Mais
exactement.
C'est vraiment écrit, vraiment c'est structuré vraiment comme un épisode de quatrième dimension,
ouais.
Ou comme d'ailleurs
d'une heure et demie, évidemment.
Ouais, bien sûr, ou comme une nouvelle de Richard Matheson, quoi. Il y a vraiment ce truc-là, qui a aussi écrit pour la quatrième dimension, d'ailleurs.
Bah, en tout cas, c'est un film qui est visuellement fou. Il y a un petit, je pense qu'on est assez aligné là-dessus, il y a un moment où on se perd un petit peu au milieu du film, un espèce de ventre creux, mais globalement, c'est un très grand film visuel. Il y a des plans, on dirait presque qu'il tourne avec une GoPro. C'est fou, on est en 66, tu vois ce que je veux dire, tu sais, quand on est...
Tu penses à quel moment avec
les plans au début, dans les plans où il se balade dans la gare, où la caméra est collée à son épaule.
Mais ça, alors vraiment, je me demande comment ils ont fait. Les caméras à l'époque, quand même, elles étaient costauds.
C'est incroyable.
Je me demande sincèrement comment ils ont pu. Effectivement, je ne sais plus comment on
appelle. Elle est stabilisée, en fait.
Ouais, mais je ne sais plus comment on a. Il y a un terme technique pour ça, donc bien sûr, je ne me souviens plus. Mais c'est ce qu'utilise, par exemple, Scorsese dans Mean Street. C'est des plans où, même un peu Spike Lee, là. Des plans où, en fait, la caméra est vraiment accrochée à l'acteur.
Ouais, elle est harnachée. Ouais.
Elle est harnachée. Et en fait, du coup, quand. Et en fait, la caméra va être, je ne sais pas, par exemple, fixée sur le visage. Mais du coup, quand l'acteur va bouger. La caméra va bouger avec lui, ouais. Et le point va rester fixe, en fait, donc sur son nez, enfin sur son visage, quoi. Et tu te dis, mais comment effectivement ils ont fait ça à l'époque, parce que c'est assez impressionnant.
Et puis même, c'est très impressionnant.
C'est accroché, puis après c'est des plans plans un peu vu d'un chien, quoi.
Ouais.
Mais c'est même pas de la contre-plongée, c'est vraiment juste, on dirait qu'il a tenu la caméra, et il marche dans les dans la gare,
ouais.
Vraiment comme s'il tenait une mallette, en fait. Et donc il y a ce truc un peu oppressant. Où il y a la caméra qui est fixée sur sa tronche, la caméra qui montre les gens marcher, grouiller.
Toujours en courte focale, ouais. Avec une très courte profondeur de champ, on voit toute la gare dans laquelle il avance. Enfin, visuellement, c'est assez frappant quand même.
Et puis, il faut se rappeler aussi, on peut le citer, parce que c'est quand même assez classe, le générique a été créé par Saul Bass.
Ouais.
Donc, un grand nom. Du cinéma américain qui a surtout travaillé pour, enfin on connaît son travail surtout pour Hitchcock, puisqu'il a fait, en fait, vraiment, c'est lui qui faisait la DA des génériques, en fait, tout simplement. Il faisait que ça, il faisait la DA des génériques. Et là, le générique de Frankenheimer de Seconds, c'est comme des reflets sur des lampes de médecins, là, je sais pas si vous voyez justement les trucs des années 50 où le reflet se tord avec,
ouais.
Avec la circonvolution du miroir un peu, là.
Ouais.
Et ça rend aussi...
Et c'est sur des visages.
C'est que sur des visages, ouais. Bah, comme sur en fait, comme c'est un truc opératoire, quoi.
Ouais, exactement.
Ouais, il y a ce truc... En fait, les 40 premières minutes, parce que donc, c'est un film avec Rocketson, et Rocketson n'apparaît que... Sur un film d'une heure 40, il apparaît qu'à la 40e minute.
Hein. Ouais, ouais, ouais.
Donc en vrai, c'est assez... Même...
Rocketson, en fait, joue et le visage de ce ouais. Premier protagoniste post-opératoire.
Ouais.
Et alors bon, film qui parle en fait de l'idée de la deuxième chance, c'est l'idée que en fin de compte l'herbe est toujours plus verte ailleurs, et puis en fait bah, une fois qu'on est ailleurs, elle est pas forcément plus verte. Un film qui ressort donc chez Sidonis Calista, qui est dans une copie sublime, qui est disponible en Blu-ray. C'est aussi un film avec dans les bonus, attends, je sais plus si c'est dans les bonus de Black Sunday, non, je crois que c'est dans les bonus de Seconds, il y a un entretien passionnant face caméra de Frankenheimer qui parle de son travail et de comment, ouais. Il se projette ouais, par rapport à son métier.
Ça dure 10 minutes, c'est super.
C'est condensé, c'est hyper intelligent. Il a une pensée qui est franchement extrêmement construite, très bien construite. Ça a l'air d'être un homme vraiment, en plus d'être un très grand faiseur, et ça a l'air d'être aussi un très grand intellectuel, un passionné de peinture.
De toute façon, non, mais il a l'air vraiment, tu sens qu'il a un recul sur son travail, et c'est assez beau et en même temps assez douloureux, je trouve. Il parle à un moment du fait de, d'être artiste, ou d'être un faiseur, ou d'être en tout cas un artisan. Et il explique très concrètement que, de toute façon, lui, il n'a pas fait de film d'artiste, quoi. Et dans un système hollywoodien qui est complexe et dur. Et vraiment, il y a une espèce de vague à l'âme, doux amer, quoi.
Ouais.
C'est vraiment très intéressant et ça dure vraiment que 10 minutes.
Ouais.
C'est vraiment super.
J'avais jamais entendu parler de cet entretien. Ouais. Le deuxième grand film de Frankenheimer qui est disponible chez Sidonis Calista, c'est Black Sunday. Alors, Black Sunday, c'est le récit... très prenant, hein, du groupe terroriste Septembre Noir, qui veut faire sauter une montgolfière au-dessus de 80 000 spectateurs lors d'un match du Super Bowl, hein, qui sont dans un stade. Et d'ailleurs, il y a aussi le président des États-Unis qui est dans le public. Voilà, ils ont une bombe artisanale dans cette montgolfière qui balance des centaines de milliers de clous et veulent faire des dégâts assez colossaux. C'est un film qui est très actuel. Hein, ça parle du Mossad, d'Israël, des États-Unis, du conflit israélo-palestinien. On est en 77. C'est évidemment un film en creux qui parle de Septembre Noir, ce groupe qui a attaqué Munich, les Jeux Olympiques de Munich en 72. Je précise, toute petite parenthèse, qu'en ce moment, il y a en salle un film qui s'appelle 5 septembre et qui parle justement de ces événements, qui est très intéressant et qui revient sur comment la chaîne ABC, qui est une chaîne de sport, s'est retrouvée à diffuser en direct une prise d'otage et comment elle est devenue la première chaîne à faire de la diffusion directe d'une prise d'otage et surtout de news live qui n'étaient pas des news sportives. Mmh. Donc tout d'un coup, il y a des mecs qui gèrent le sport, qui se retrouvent à gérer et à s'organiser autour d'un événement sociétal, hein, et qui n'est pas du tout de l'ordre du sportif. Bref, c'est aussi très intéressant à voir. Donc, Black Sunday, un film avec un casting extraordinaire, hein, Robert Shaw, Bruce Dern, Mark Keller, film que nous avons adoré et sur lequel tu veux revenir.
Et produit par Robert Evans, quand même. Hein.
Absolument.
Un géant du nouvel Hollywood.
Chinatown.
Le parrain. Le parrain, hein, quand même, entre autres aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment une belle brochette, effectivement. Et déjà, ce que j'ai aimé, moi, dans ce film, c'est, c'est le côté thriller, action. C'est vraiment un film d'une générosité vraiment immense. Dès l'introduction, c'est attaque d'une baraque. Je sais plus où d'ailleurs, mais attaque de baraque, quoi. Et ça commence avec des explosions, des machins, et tu sens que tout est réel. Tu sens qu'ils ont mis des bombes partout. C'est vraiment assez impressionnant. Ça a vraiment, vraiment de la tronche. Et
ouais, tu sens que c'est des effets pratiques, quoi.
Ah ouais, tout
visuellement,
est...
ça a de la gueule.
Ah ouais, franchement, à part la fin, on va pas spoiler, mais bon, c'est qui est un peu plus vilain. Mais en global, vraiment, moi, j'ai adoré ce film. Et puis en plus, il y a des thématiques que je trouve qui sont abordées, qui sont hyper intéressantes. Alors, bien sûr, il y a en plus en voyant le film, ça retrace en plus vraiment l'actualité, puisque bon, donc ça parle effectivement des tensions israélo-palestiniennes, ça parle des États-Unis qui quand même bossent avec eux, etc. Donc il y a un côté...
Bossent avec les Israéliens.
Oui, il y a un côté concret et actuel. Et en même temps, je trouve que ça brosse des thématiques assez intéressantes. En partie, moi, le segment que j'aime beaucoup, c'est un des terroristes est un ancien soldat.
Ouais.
Qui a été capturé au Vietnam.
Bruce Dern.
Ouais, qui est joué par Bruce Dern et qui, en fait, a un syndrome de PTSD et qui, en fait, par esprit paranoïaque et de vengeance, et parce qu'il pense qu'il a été laissé pour compte, va vouloir créer, avec d'autres membres du Septembre Noir, un attentat pendant le Super Bowl. Et vraiment, ce personnage de grand héros de guerre, mais qui est, en fait, un pauvre type complètement paumé et brisé, c'est vraiment un des personnages qui m'a le plus touché, et ça montre aussi justement, on voit des gentils qui sont joués par Robert Shaw, donc qui est un agent du Mossad, mais qui est quand même pas loin d'être une belle brute, et de l'autre côté on a un terroriste qui est complètement brisé par la vie.
C'est vachement, l'ambivalence des personnages est vraiment intéressante. Mmh. Et Bruce Dern, rappelle-toi, donc voilà, un mec qui est prêt à tuer des dizaines de milliers de personnes, et en même temps, il fond en larmes quand Mark Keller, à un moment, veut le quitter. Il fond en larmes dans ses bras comme un petit enfant qui aurait perdu sa maman, quoi. Il a un côté totalement désuet, et c'est ça que j'aime, cette ambivalence. Et tu parles de Robert Shaw, qui est l'agent du Mossad, et donc qui traque les terroristes. Et lui, pareil, son surnom, quand même, il fallait l'oser. Dans le film, on le surnomme Solution Finale, et donc il est un agent du Mossad qui, parce qu'en fait il tue sans sommation tous les gens qui se mettent sur sa route, et donc c'est aussi une ambivalence, c'est-à-dire que bah, c'est le good guy du film, et en même temps il est extrêmement sombre.
Et il est d'une violence assez noire, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est aussi, j'y pense à cause de Robert Shaw et agent du Mossad, c'est qu'en fait, moi, en tout cas, quand j'ai vu le film, j'ai pas tout de suite compris qui il était. Alors déjà, je pense que son accent israélien ou russe, je ne sais pas, parce que vraiment, c'est chelou, mais on comprend pas trop d'où ça vient.
Ouais, puis il a un nom un peu russe.
Oui, il a un nom russe, donc vraiment, tu piches pas qui est ce gars. Et l'attaque au début, tu sais pas si les terroristes sont vraiment les terroristes, du coup, tu sais pas si les gentils sont les gentils. Et en fait, là, d'un coup, ça pop comme ça dans la tête, et je pense que du coup, c'est fait exprès qu'on soit paumé pendant les 30 premières minutes. Mais je me demande si c'est pas aussi justement pour essayer de donner un peu plus de cœur justement au personnage, et pour, tu sais, comme ça t'es un peu perdu, tu sais pas qui sont les gentils, qui sont les méchants, et du coup t'arrives plus à t'attacher à ce couple de terroristes, et peut-être un peu moins t'attacher aux gentils en fait du film, tu vois, ou en tout cas aux good guys, ouais, comme tu dis. Et vraiment, je...
Mais à un moment l'intrigue se dénoue.
Ah bah au bout de bien,
ouais,
quand même
20 minutes, ouais, 30 minutes.
Pour moi une bonne demi-heure où tu piges enfin en fait que c'est des agents du Mossad, que en fait ils cavalent après un groupe terroriste. Mais du coup, je trouve que t'es directement plongé dans l'enquête, quoi.
Ouais, et là ça devient hyper prenant aussi, hein.
Ah bah là, mais moi ça m'a rappelé, c'est ce que je disais un peu en off, je sais pas si c'est vrai, mais ça, c'est juste le regard que j'ai, mais moi ça me rappelle parfois, avec beaucoup moins de budget et un peu moins d'action, mais les films de Boisset sur l'aspect en même temps très populaire et en même temps très politique.
Ouais, complètement.
Mais politique frontale, quoi. Là, on parle de vraies thématiques avec les vrais noms, les vrais sujets, et on va en parler frontalement, mais en gardant...
Tout en étant grand public.
Exactement.
Ouais,
en gardant ce côté passionnant d'action, quoi.
Et c'est un film... C'est un film qui est intéressant aussi parce qu'il est construit autour de grandes scènes, de moments de bravoure. Il y a un gunfight qui prend place en plein milieu de Miami,
ouais,
qui est extraordinaire.
French Connection.
Visuellement, voilà, tout d'un coup, on est dans French Connection. Petit, je souligne quand même Mark Keller, qui est extraordinaire dans ce film, qui est né le même jour que moi, je précise, mais pas la même année.
C'est,
et donc je
ça.
Suis tombé totalement amoureux dans le génial Amnesia, qui était film de 2015 de Barbet Schroeder. Bref, elle est aussi fabuleuse dans ce film-là. Et elle défend un personnage encore ambivalent et très très intéressant.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
On va terminer là ce nouvel épisode. À noter donc que la rétrospective Frankenheimer continue jusqu'au 1er mars, que Les yeux de feu est disponible aux éditions Rimini. Il y a aussi deux films donc de John Frankenheimer, Seconds et Black Sunday, qui sont disponibles aux éditions Sidonis Calista, ou I Walk the Line, un autre film de Frankenheimer, est aussi disponible aux éditions Sidonis Calista. On se retrouve le mois prochain. Remerciements aux trois réalisateurs de cette émission, Enrico Mastro Giovanni, Matine Jalali et Renaud. Merci beaucoup à vous les gars, et puis merci Charles de nous avoir accompagnés encore une fois. Le temps de cette émission, voilà, à la
salut
prochaine.
Salut Thomas.
Salut à tous.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors, vous n'avez jamais rien fait.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.